OK, on est de retour dans l'avant-match. Merci d'être à l'écoute de l'émission. Depuis bientôt 8 ans, j'anime cette émission. Et pour la 3e année, je m'amuse avec une promotion des patinoires extérieures. On a eu plusieurs inscriptions en fin de semaine. On est rendu à plus de 35 inscriptions. J'espère qu'on en aura 50 ou 60 à la fin de la promotion. C'est possible pour vous de vous inscrire depuis la semaine dernière, là, mais on est encore loin de la date limite. Donc, si vous avez une patinoire extérieure derrière la maison, n'hésitez pas. Concours avec un S en commercial, fm93.com. Vous nous envoyez un courriel et les gens de la promo vont analyser votre candidature. On va faire la tournée des patinoires le samedi 10 février prochain. Peut-être vous l'avez vu en fin de semaine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de lire ce texte de Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada. La révolution du hockey suédois, tout misé sur le plaisir des enfants. Et tabarouette que j'ai de la misère à m'imaginer un titre comme ça avec la révolution du hockey québécois, tout misé sur le plaisir des enfants. Encore une fois, en fin de semaine, j'étais dans les arénas. Je suis allé voir le tournoi Bantam de Sainte-Foy. Je suis allé voir le hockey midget 3 hier à Saint-Augustin. Et à chaque fois que je m'en vais voir du hockey mineur, j'ai pas l'impression que c'est le plaisir des enfants qui est mis en évidence. On jase à l'instant avec Martin Leclerc, journaliste d'expérience pour Radio-Canada. Salut Martin!
Salut Dan!
Comment vas-tu?
Ça va très bien, pleine forme.
Qu'est-ce que la Suède a compris qu'on n'a pas compris, nous, au Québec ou au Canada?
Bien, écoute, la Suède a fait une grosse remise en question au début des années 2000. La chronique que j'ai faite, qui est publiée sur le site de Radio-Canada, c'est un entretien avec Tommy Boustedt. Tommy Boustedt, c'est un gars qui a été entraîneur dans la Ligue élite de Suède entre 1983 et 2001. Et en 2001, la fédération, voyant que ça allait un peu nulle part, son programme de développement, que l'équipe junior, l'équipe nationale junior avait des mauvais résultats sur la scène internationale, ils ont demandé à Tommy Boustedt de refaire le modèle de développement ou les structures de la fédération au complet. Et ils ont fait une grande consultation dans leur fédération. Ils ont fait des états généraux. Après ça, en 2002, ils ont collecté beaucoup d'informations. Et ils ont pris 100 résolutions qui étaient censées améliorer le hockey en Suède. Et si on regarde le chemin qu'ils ont parcouru depuis ce temps-là, au début des années 2000, il y avait 4,8% de joueurs suédois dans la Ligue nationale de hockey. Et ça a plus que doublé. Là. Il y a 10,2% maintenant de joueurs de la Ligue nationale qui sont suédois. Et juste au cours des 10 dernières années, il y a 250 Suédois qui ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey. C'est 2 fois plus que les Russes puis les Finlandais. Puis là, on parle d'une fédération qui a à peu près 63 000 joueurs. Là. C'est 30 % moins de joueurs que Hockey Québec. Alors, c'est assez époustouflant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Et la grosse innovation dans ça, c'est qu'ils ont décidé de miser sur le plaisir des enfants. C'est assez incroyable.
Le plaisir des enfants, et particulièrement ce que j'ai aimé dans ta chronique, c'est le fait qu'en bas âge, on évite les longs déplacements. Tu sais, des jeunes de la région de Québec qui, en fin de semaine, ont fait des voyages au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le bas du fleuve pour aller jouer contre Rivière-du-Loup et Mont-Joli. Il y en a beaucoup. En Suède, c'est pas possible. Les jeunes, avant l'âge de 13 ans, voyagent pas d'aussi longue distance. Et le résultat du match n'est pas compilé, il n'y a pas de statistiques. Oui, on sait dans le cours du match, c'est rendu quoi le pointage, mais une fois que c'est fini, l'un de tes intervenants disait, on efface le tableau puis on se concentre sur le prochain match.
Oui, ça je trouve ça tout à fait extraordinaire. Il m'a expliqué, Tommy Boustedt, ça fait 2 ans qu'ils font ça en Suède. Ils ont décidé de plus, pour les jeunes de moins de 12-13 ans, là, de plus tenir de classement pour la saison, de plus compiler les statistiques, les meilleurs marqueurs, combien de buts, combien de passes, etc. Et il m'a expliqué qu'ils veulent éviter que les jeunes, quand ils sont au mois d'octobre ou au mois de novembre, se projettent au mois de mars. Et quand ton équipe est dans les dernières au classement, puis que t'as 10-11 ans, ben tu te dis, bon, ben on est dans les moins bons de la Ligue, à la fin de la saison, on jouera pas en séries éliminatoires, on est moins performant que les autres, on n'est pas bon, j'ai juste un but, deux passes, puis je regarde le meilleur marqueur de la Ligue, 42 buts, 22 passes. Ouais. Alors, eux autres ont décidé, on dit, on veut pas que les jeunes se projettent dans l'avenir, on veut juste que quand le match se termine, qu'on pense au prochain, et puis que c'est un peu comme quand on va jouer à la patinoire dehors avec nos amis ou qu'on joue dans la rue, on compte les buts, on sait qui a gagné, mais le lendemain, plus personne ne se souvient qui a gagné le match, puis on en joue un autre. Et c'est ce qu'ils veulent inculquer pour forcer les entraîneurs à faire du développement, pour pas penser aux résultats, pour vraiment se concentrer sur les habiletés individuelles des jeunes, puis que on oublie la compétition jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'assumer ce que c'est vraiment les jeunes, la compétition.
Deux choses également qui me frappent quand je lis ton article, c'est l'intervenant qui dit, évidemment tu l'écris entre guillemets, « Le patinage est une science extrêmement complexe qui doit être transmise en très bas âge. Au Québec, souvent, on oublie ça. » Et les petits hockeyeurs suédois sont encouragés à pratiquer le plus grand nombre de sports possibles. Souvent au Québec, on a même vu dans les dernières années. Là, je pense que ça s'est corrigé là, l'an dernier ou peut-être l'année précédente, mais dans les dernières années, et même on peut remonter à l'époque où toi et moi, on jouait Pee-Wee. Si on n'avait pas fini notre saison de baseball, on était pénalisé quand on arrivait à nos camps d'entraînement de hockey. C'est un non-sens. Quand on écoute, Martin, les spécialistes des universités américaines, les USC, puis les Penn State, puis les Notre Dame, les gens qui font le recrutement là-bas nous rappellent à chaque année que s'ils ont un CV d'un athlète qui a fait plusieurs sports, ils vont le considérer avant un athlète qui a fait un seul sport.
Oui, c'est très, très valorisé du côté américain, les athlètes qui pratiquent plusieurs sports, qui excellent dans plusieurs sports. Je sais qu'il y a un changement, il y a un changement de garde qui s'en vient à Hockey Québec. J'ai vu le rapport... Qui était sur le bureau de Paul Ménard il y a quelques semaines, le nouveau directeur général. Et d'ailleurs, on va changer la confection du calendrier au Québec à partir de la saison prochaine. On va commencer la saison plus tard et elle va se terminer plus tard, justement pour permettre aux jeunes de continuer à pratiquer leur sport estival. C'est une philosophie tant qu'on mieux. Va embrasser. Ouais. Oui, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est ça, Tommy Boustet me disait, quand on a fait notre examen de conscience au début des années 2000, on s'est rendu compte que tous nos plus grands hockeyeurs, les Peter Forsberg, les Matt Sundin, avaient tous pratiqué quatre ou cinq sports quand ils étaient jeunes. Alors, eux, ils prennent ça très au sérieux. Ils veulent que... D'ailleurs, ils trouvent que c'est important de bien enseigner le hockey parce que ça va probablement permettre, si un jeune ne choisit pas le hockey un peu plus tard, quand il va avoir 14 ou 15 ans et qu'il va décider de se spécialiser dans un autre sport, mais ça va l'aider, si on lui a bien enseigné les bases du hockey, à exceller dans un autre sport. Alors, il y a une vision très collective dans ça. Ils disent, si un jeune pratique 3 ou 4 sports, il va devenir un meilleur hockeyeur. Puis si jamais il choisit pas le hockey, il choisit le soccer à 14 ou 15 ans, mais il va être un meilleur joueur de soccer si on lui a bien enseigné le hockey.
Ouais.
Fait que c'est une vision... Les fédérations au Québec commencent à peine à travailler ensemble comme ça, mais c'est tout à fait avant-gardiste, c'est tout à fait logique là, quand on y pense.
Tu sais, ce qui est un peu paradoxal, c'est que depuis le début de notre entretien, on compare la Suède et le Québec. Tu dis dans ton article qu'il y a 36 000 joueurs de hockey en Suède, 90 000 au Québec, mais le Québec, n'en déplaise à certains qui le souhaiteraient, c'est pas encore un pays, c'est une province du Canada. Et quand la Suède joue la finale du championnat mondial de hockey junior, elle affronte le Canada. Et là, nous, ce qu'on est en train de faire dans l'entretien, sans trop s'en rendre compte, on compare la Suède et le Québec, alors que la Suède est très bien organisée, structurée depuis son fameux sommet du hockey, mais il faudrait les comparer avec le Canada et on se rendrait compte que des patinoires en Suède, il n'y en a pas beaucoup versus tout ce qu'il fait au Canada, hein?
Oui, et le temps, c'est ça. Il me racontait Tommy Boustet à quel point le temps de glace est précieux là-bas.
Oui.
Les jeunes jouent sur la largeur de la patinoire jusqu'à l'âge de 11 ans. Parce que ça permet à plus de jeunes d'être sur la patinoire en même temps. Ça permet de mieux utiliser chaque heure de glace. Mais en même temps, ça permet de mieux développer les habiletés parce que les jeunes sont toujours obligés de prendre l'information, de manier la rondelle.
Oui.
Ils tirent au filet plus souvent, sont obligés de faire davantage de passes, les gardiens sont plus sollicités. Et il me disait, les enfants ont beaucoup plus de plaisir à jouer sur une petite surface qu'à jouer sur la grande glace. Quand ils ont 10 ou 11 ans, c'est beaucoup trop grand pour eux. Et au Québec, on commence, il y a un projet pilote cette année, il y a une région où on joue sur le sens de largeur de la glace pour les novices, pour les 7 et 8 ans. Et là, c'est une révolution, là.
Ouais.
Hockey Canada a commencé à instaurer ça cette année, puis il y a eu une rébellion à Toronto parce que les gens refusaient ça.
Ouais.
Alors que toutes les études scientifiques montrent que c'est tellement plus bénéfique pour les jeunes de jouer sur une petite surface quand ils sont petits.
Martin, quand M. Boustet dit on est sorti du sommet avec 100 tâches à accomplir pour créer un nouveau modèle de développement, et on est très fiers parce qu'aujourd'hui, chacune de ces 100 tâches ont été réussies. Il y en a eu un sommet au Québec il y a quelques années également. Tu me corrigeras, ça fait peut-être 4-5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sorti de ce sommet-là.
Autour de 2010, j'étais là d'ailleurs, okay. ce fameux sommet-là, et il y avait Pierre Boivin qui était président du Canadien à l'époque, qui était un peu le parrain de ce sommet-là,
oui.
Et Pierre Boivin avait dit, je me souviens clairement, avait donné un point de presse durant ce sommet du hockey-là, il avait dit, si on se retrouve pas tout le monde, tous ceux qui sont présents ici, si on se retrouve pas l'année prochaine pour mesurer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et qu'est-ce qui nous reste à faire pour continuer à progresser. Là, si on ne fait pas un bilan de l'année qui s'est écoulée depuis le sommet du hockey, on va tous avoir perdu notre temps. Si on ne se rencontre pas à chaque année pour les 5 prochaines années pour faire le point, pour mesurer les progrès, on va tous avoir perdu notre temps. Et il n'y a jamais eu d'autres sommets par la suite d'organiser pour faire le suivi. Okay. Mais je me souviens qu'il y avait eu un paquet de recommandations. Mais écoute, l'exercice a été refait là, complètement au cours de la dernière année parce que le nouveau directeur général d'Hockey Québec, Paul Ménard, a refait une grande consultation, puis on est arrivé avec des nouvelles résolutions. Et les fameux matchs, les fameuses saisons sans classement, moi, je serais pas surpris que ça s'en vienne au Québec au cours des prochaines saisons, mais juste dans le hockey simple lettre. Fait que, tu sais, au Québec, on est très attaché à nos élites. Là.
Oui.
On crée des élites à 11 ans puis 12
oui.
ans.
Oui.
Mais je pense que dans le hockey simple lettre, ça va arriver ce genre de hockey-là, du hockey 3 contre 3, du hockey 4 contre 4, des saisons de hockey sans classement. Donc, on évolue tranquillement, mais peut-être pas au même rythme qu'ailleurs dans le monde.
Je parlais avec des parents en fin de semaine. Des parents me disaient, mon jeune joue dans peu importe la catégorie, dans le B. Mais il y a des pratiques actuellement pour former son équipe de hockey d'été. Je dis, pardon? Hockey d'été, oui, le fameux hockey 3A qu'on a connu, qui a été lancé dans les années 80 au Québec. Il y en a de plus en plus, c'est devenu une véritable folie. Le jeune joue dans le B l'hiver, mais il fait du hockey 3A l'été. Il pourrait aussi jouer au soccer, jouer au baseball, puis s'amuser en vélo de montagne, hein?
Oui, absolument. Et tous les spécialistes recommandent ça. Moi, je comprends pas encore qu'il y a des parents qui sortent pas leurs enfants de l'aréna. Moi, quand j'étais entraîneur au hockey mineur, j'étais capable de distinguer au camp d'entraînement clairement ceux qui avaient fait du hockey pendant tout l'été par rapport à ceux qui n'avaient pas fait, parce que tu voyais qu'il y avait aucune excitation dans le regard de ceux qui avaient joué au hockey durant tout l'été. Là, c'était comme la même routine qui se répétait encore une fois, puis j'ai un nouvel entraîneur d'en face qui me demande des choses, alors que ceux qui jouent au baseball puis au soccer, ben ils sont contents de sortir leurs souliers à crampons puis leurs gants de baseball quand le printemps arrive, puis ils sont contents de sortir leur équipement de hockey quand le camp d'entraînement au hockey arrive. C'est pas juste physiquement que c'est important de changer de sport, c'est mentalement. Et ça explique, moi, je trouve, ça explique en grande partie le grand nombre d'abandons qu'on a. Quand les jeunes arrivent à 13 ou 14 ans au Québec, il y en a un grand nombre qui abandonnent le hockey parce qu'ils sont écœurés de jouer au même sport depuis l'âge de 5 ans à l'année longue, puis ils veulent voir s'il y a d'autres choses dans le monde. Alors, il faut encourager nos jeunes à sortir dehors l'été puis à pratiquer d'autres choses. Et ça va faire d'eux des meilleurs hockeyeurs en bout de ligne.
Absolument. Martin, pour une première fois au tournoi Pee-Wee cette année, dans un peu moins d'un mois, il y aura une classe scolaire avec 8 équipes. Ça faisait longtemps que Patrick Dome travaillait sur ce dossier-là. Qu'est-ce que ça prendrait au Québec? Évidemment, le temps file. Là. Je veux pas qu'on en parle pendant encore 15 minutes. C'était très intéressant notre discussion, mais de toute façon, on ne pourra pas régler, toi et moi, le problème du hockey mineur au Québec ce soir. Mais qu'est-ce que ça prendrait? Peut-être un ou deux points majeurs que toi, tu as observé, parce que je sais que tu suis ce dossier-là de près depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut tout... je veux dire, comme Daniel Lemire disait dans un de ses spectacles sur le Canada, est-ce qu'il faut faire faillite pour repartir à zéro sous un autre nom?
Avec notre hockey mineur?
Oui.
Écoute, je pense qu'il est en transition présentement. Il y a de plus en plus d'écoles qui se lancent dans la pratique du hockey. Je pense pas que les écoles peuvent absorber tout ce qu'on a comme hockeyeur et que tous les arénas pourraient être utilisés durant le jour pour accueillir tout le monde. Mais si on arrive avec une sorte de système hybride qui permettrait de mieux développer les jeunes en bas âge, on l'a vu avec l'exemple des Suédois, à quel point c'est important de travailler avec les jeunes de 5 ans à 10 ans, puis de leur donner beaucoup d'heures de glace. Si on peut libérer un paquet de ces heures-là pour ceux qui sont à l'école et qu'on peut permettre à un plus grand nombre de joueurs au Québec d'avoir l'encadrement optimal, plusieurs séances d'entraînement par semaine par rapport au nombre de matchs qui sont disputés, bien, en bout de ligne, si on développe plus de joueurs de meilleure façon, bien, le hockey au Québec va progresser. Puis c'est ce que le système est en train de faire. Là. Les gens sont en train de décider que l'école est bonne pour le développement des joueurs de hockey. Et Hockey Québec n'a pas eu le choix de suivre ça. Alors, on s'en va dans la bonne direction, je pense.
Parfait. Un gros merci, Martin. Bonne soirée à toi.
Merci, bye-bye.
À bientôt. Martin Leclerc, journaliste de Radio-Canada, qui a écrit la chronique en fin de semaine « La révolution du hockey suédois, tout misé sur le plaisir des enfants ». Et boy, qu'on oublie ça souvent au Québec, hein?